Europe 1.
L'esprit est le contraire de l'argent.
Tous les jours sur Europe 1.
Moins on en a, plus on est satisfait. Voltaire.
Historiquement vôtre.
Enfin, tout c'est tant mieux.
Et Van Gogh, c'est pas une famille d'artistes.
The successor to the kings and queens of history.
Là, Seigneur Colomb, c'est là précisément que nos opinions divergent.
Stéphane Bern.
Bonjour à toutes et à tous, Clémentine,
et Jean-Luc, bonjour Stéphane,
David,
bonjour à tous.
Bonjour à vous,
bonjour Stéphane, cher Stéphane.
Bern. Et bonjour à celle qui est avec nous aujourd'hui aussi, notre historienne des mœurs. Bonjour Virginie Giraud.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Ravi de vous retrouver comme chaque après-midi sur Europe 1 pour vous raconter l'histoire sans se la raconter, en compagnie de trois personnages qui n'auraient jamais pu se croiser, qui ne vivaient pas à la même époque, mais qui ont un point commun. Aujourd'hui...
Oula.
Ils sont maudits. C'est le thème d'Historiquement Vôtre cet après-midi.
On tremble là.
C'est... Oui, non, c'est pas comme ça que le dit Jacques de Molay, de Pardieu dans Les Rois.
Mais je ne suis pas Jacques de Molay.
Mais oui, mais faites-le mieux. C'était... Maudits, soyez maudits.
Respectez Stéphane Bern.
J'adore
mieux.
Cette phrase. Non, mais vous la sabotez là.
Excusez-moi,
vous faites beaucoup de choses.
Soyez quelqu'un de plus talentueux, c'est ça qu'elle.
Non. Sur maudits, soyez maudits, sans aucun doute.
Je l'ai dit, vous faites très bien la sorcière.
Oh, ça va direct.
Ça va le finir.
Alors, commencez par les héritière de la célèbre marque de carabines américaine, Sarah Winchester, qui se sentant poursuivie par les fantômes tombés sous les balles de cette arme, a fait construire une immense maison pour les piéger, vous verrez. Oui, oui, tout cela est rigoureusement vrai. Puis je vous raconte un roi, maudit lui aussi, et le premier de la lignée même. Le petit-fils de Saint-Louis, le roi de fer Philippe le Bel, qui ne reculait devant rien pour protéger la royauté, mais a fini par tomber. Et après les morts, le vivant, c'est vous Jean-Luc qui dresserez vers 17h30 le portrait de notre troisième personnage du jour, un footballeur victime d'une étonnante malédiction.
Oui, il est le footballeur maudit.
Non, c'est
ah
pas
bah
ça
voilà,
non
plus,
non. Maudit.
Voilà, je commence et vous finissez. Il est le footballeur
maudit.
Voilà, son nom, Aaron Ramsey, qui joue actuellement à l'OGC Nice.
Je crois qu'il s'appelait maudit.
Non. Il avait joué avant à la Juventus et à Arsenal. Maudit parce qu'à chaque fois qu'il marque un but, une célébrité meurt. Et vous l'avez compris, ce n'est pas lui qui l'a tué. Hein. Je vous raconte tout ça tout à l'heure.
Bon, en tout cas, vu leur niveau en foot, eux au moins, ils ne risquent pas de tuer quelqu'un. D'abord, je propose de découvrir celle qui nous entraîne dans l'intimité des grandes semaines, la sorcière Clémentine. De qui nous parlez-vous, Clémentine ?
Eh bien, je vous parle de la reine Draga de Serbie et son mari, époux maudit, assassiné par la main noire en 1903. On se croirait dans un épisode de Dracula ou la nuit des morts vivants, mais non, pas du tout, c'est une histoire tout à fait vraie.
Ah, c'est vrai que c'est...
Oui, la c'était reine Draga, la reine... rien c'est... que ça, ça
non,
fait peur.
Non, parce qu'il y avait les
trouve.
Karađorđević et les Obrenović, voilà. Et la reine Draga fait partie de la...
Et ça me rappelle le nom d'une actrice des années 90, dont vous vous souvenez peut-être.
Non.
Sonia Braga.
Dragixa.
Pas du tout. Ah non.
Moi, j'étais sur une...
Ça me rappelle
rien. Non, ça devait être, tu crois.
Elle était serbe.
Qui passait beaucoup dans le journal du Hard, si
oui,
vous
voulez.
Voilà. Ah oui, voilà, sûr, voilà. On n'a pas les références.
Genre
d'actrice en fait.
Un petit peu particulière.
Ça, c'est une critique à la sœur. Lui remonte aux origines d'un objet, d'une mode, d'une passion, voire d'une obsession, à part celle de ses films pornographiques, souvent la sienne. C'est David Cassel-Lopez. De qui nous parle ou de quoi nous parlez-vous?
Je vous parle des Adidas.
Des deux frères allemands.
Exactement. Vous connaissez tout, mais ne spoilez pas pour ceux qui ne connaissent
non,
pas.
Non, bien sûr, au contraire. Les origines, c'est dans toute fin d'émission et juste avant, comme dirait l'autre.
Mes aïeux, quelle époque, mes aïeux, quelle époque.
Mes aïeux, quelle époque, ça s'est passé dans le passé. Aujourd'hui, on remonte en 1905. On parle société avec vous, Virginie Giraud, une société qui a évolué grâce à Matahari, oui, oui.
Oui, je vais tenter de ramener un peu de glamour dans cette émission maudite et donc de vous parler de striptease ou comment une femme a libéré son corps et le corps des femmes en se mettant à nu.
Les feuillages, on appelait
exactement.
Ça des feuillages.
Exactement, je vois déjà l'œil de David briller.
Oui.
Parce que vous allez joindre le geste à la parole.
Non, ça c'est moi qui m'en charge.
Qu'est-ce que
on
c'est que cette invitation?
J'enlève ma chasuble de cardinal et je verrai ce que je peux faire pour vous.
Donc nous sommes maudits.
Ça chauffe très vite là, mais vraiment en quelques secondes, c'est...
Je ne vais pas dire, mais tout le monde espérait que Virginie Giraud... Et face des feuillages,
non,
et on se retrouve avec Clémentine qui
ben
fait
ouais.
un striptease. Ben
ouais.
Je comprends.
Quand on n'a pas de rive, on mange du merde.
C'est
la
travail d'équipe en
réalité. Il y a mal donne. Bon. Mes aïeux, quelle époque, ce sera tout à l'heure vers 17h40. Mais avant cela, du grand n'importe quoi, de l'approximation et de l'amateurisme avec vous, Jean-Luc, et votre quiz Born to be Alive.
Bah oui, mais n'importe quoi revendiqué, de l'approximation assumée, oui, c'est le quiz Born to be Alive. Vous allez être opposé à Clémentine la maudite. On va apprendre en s'amusant. Enfin, s'amuser, sauf que le perdant, ça finit toujours par une soupe à la grimace.
Oui, bien sûr. J'ai oublié la phrase. Bon, écoutez, je veux bien s'il y a des croutons dans ma soupe. Mais pour l'heure, restez bien avec nous. Je vous raconte mon premier personnage du jour.
Europe 1, historiquement vôtre. Le récit. Stéphane Bern.
Elle portait le nom d'une des carabines les plus célèbres de la conquête de l'Ouest et a dépensé une véritable fortune pour construire une maison devenue l'une des plus célèbres d'Amérique. Célèbre parce qu'elle serait hantée de centaines de fantômes. Je vous raconte maintenant Sarah Winchester et son étrange demeure. La mort de Sarah Winchester le 5 septembre 1922 n'a pas vraiment fait la une des journaux de l'époque. Et pourtant, sa disparition ne met pas seulement fin à une longue existence de l'une des plus grandes fortunes des États-Unis. À 83 ans, la mort de la vieille dame marque aussi la fin de l'étrange chantier, entamé 38 ans plus tôt dans sa demeure de San José, en Californie, et ininterrompu depuis. En quatre décennies, Sarah Winchester a fait d'un simple petit cottage de quelques pièces une gigantesque demeure de plusieurs étages et de 160 pièces, là où la Maison Blanche, par comparaison, n'en compte que 132. Elle a surtout donné naissance à l'une des maisons hantées les plus célèbres du monde, la Maison Winchester. Toutes les histoires ont un commencement, même les histoires de fantômes. Celle de Sarah Pardy commence en 1839 dans le Connecticut, où le hasard de la vie lui fait voir le jour dans une famille aisée de la bonne société américaine. À 23 ans, la jeune femme croise la route d'un jeune célibataire venu du même monde, William Winchester, héritier d'Oliver Winchester, l'homme qui a commercialisé la fameuse carabine du même nom. Marié en 1862, le couple est hélas confronté au pire des drames. La mort d'une enfant malade, une petite fille en l'occurrence. Dévasté, le couple n'aura pas d'autres enfants jusqu'au tout début des années 1880, quand deux nouveaux drames frappent la pauvre Sarah. La mort de son beau-père, rapidement suivi de son mari, emporté par la tuberculose. À 41 ans à peine, Sarah est veuve. Mais pas n'importe quelle veuve. Héritière de la fortune des Winchester. Elle jouit chaque mois d'une rente de quelque 30 000 $, soit 750 000 $ d'aujourd'hui. Et l'ensemble de sa fortune est estimé à plus de 20 millions de $. Au milieu des années 1880, Sarah Winchester quitte alors le Connecticut pour San José, au sud de la baie de San Francisco, et s'installe dans un petit cottage qui a toute la maison de campagne américaine typique, avec ses deux étages, sa façade de bois et son auvent qui abrite une petite terrasse et un rocking chair. Mais Sarah Winchester ne s'en contente pas. À peine arrivée, la jeune veuve rameute tout ce que la ville compte de maçons, d'ouvriers, de charpentiers, de décorateurs et d'artisans pour se lancer dans des travaux dont personne ne saisit encore l'envergure, pas même elle-même peut-être. Année après année, c'est comme si la fortune invraisemblable de Sarah Winchester prenait en quelque sorte une forme matérielle, celle d'un bâtiment de plus en plus gigantesque. Le petit ranch des débuts ne tarde pas à se faire avaler par une demeure de style victorien. C'est d'ailleurs pas tant ce style classique pour l'époque qui commence à faire jaser dans la ville, c'est sa démesure. Cet étage s'élève bientôt derrière une large façade asymétrique, caractéristique avec ses deux tours. La première tient du plus pur style Tudor, avec ses créneaux de château fort. La seconde dénote avec son toit pointu, qui nous vaut bien vite le surnom de Witch Cap, le chapeau de sorcière. Derrière, on ne fait pas plus baroque avec une large suite de balustrades, de galeries, d'escaliers, de chambres, de détours, de frontons, de toits à pignons et de fenêtres à vitraux. Impossible de s'y retrouver à l'œil nu et impossible de compter sur le moindre plan. Le rythme effréné des travaux fait que personne ne prend la peine de les tracer avant de s'attaquer à l'étape suivante. La maison grandit sur elle-même avec une parfaite asymétrie, comme à l'aventure, tourelle après tourelle, trappe après trappe, étage après étage. L'étrangeté de la demeure et le mystère qui plane autour d'une propriétaire qui ne se mêle guère à la vie mondaine provoquent bien des rumeurs. pourquoi diable Sarah Winchester s'est-elle lancée dans ce projet démesuré, dans cette construction obstinée d'une demeure hors du temps, biscornue, étrange et fascinante? Petit à petit, une version s'impose. Sarah Winchester, dit-on, n'a pas seulement quitté le Connecticut pour échapper à la peine d'avoir perdu sa fille et son époux. À en croire ce qu'on murmure à droite et à gauche, l'explication est bien plus sinistre, bien plus effrayante aussi. Si Sarah Winchester ne peut pas trouver la paix, si son deuil est impossible, c'est parce que des milliers, des centaines de milliers de fantômes la hantent. Victime d'une malédiction, la pauvre veuve est harcelée par les âmes de tous ceux qui sont un jour tombés sous les balles des armes inventées par l'entreprise Winchester, celle de son défunt mari. La fortune des Winchester baigne dans la violence et dans le sang, et les morts ne lui laissent aucun repos. Pour trouver de l'apaisement, Sarah n'aurait trouvé qu'une parade, sur les conseils d'un médium. Construire une maison assez immense, un labyrinthe assez inextricable pour piéger les fantômes qui la cherchent chaque nuit le long des couloirs. Si la maison Winchester est un dédale, si la demeure compte autant de pièces d'impasse, de cul-de-sac et de passages secrets, c'est pour tromper la horde de revenants qui crie vengeance. C'est pour cela, qu'est-ce qu'on raconte ? Sarah Winchester ne dort jamais deux nuits de suite dans la même chambre. Et c'est pour cela aussi qu'on ne compte plus les escaliers qui ne mènent nulle part ou les portes qui s'ouvrent sur des murs en briques. La maison Winchester n'est qu'un immense piège à fantômes. Au-delà des rumeurs, les sources fiables manquent pour comprendre qui était vraiment Sarah Winchester. Rien ne dit par exemple qu'elle pratiquait ou non le spiritisme. Et quand bien même elle n'aurait pas été la seule à la fin du 19e siècle, à une époque où la guerre de sécession avait laissé bien des familles endeuillées en quête de questions sur la vie après la mort. Quand on raconte tard dont elle a été la cible de son vivant, ils n'ont pas là encore pas grand-chose de surprenant. Son indépendance, son goût pour l'isolement, son choix de ne pas se remarier font partie des traits qu'on a toujours reprochés aux femmes. Une chose paraît en revanche certaine, Sarah Winchester avait une certaine tendance à l'excentricité et sa fortune lui permettait d'y laisser libre cours sans aucun état d'âme. On l'a dit, Sarah Winchester s'est lancée sans se donner la peine de faire de plans, sans avoir non plus recours à un architecte. Son immense fortune a fait le reste. Sarah Winchester avait tout simplement les moyens financiers de ses envies et à ses explorations architecturales et artistiques. Il en reste un palais hors normes, dont on a dit bien des choses, sauf une. Loin du palais gothique qu'on imagine, la demeure Winchester était certes étrange, mais aussi confortable et moderne pour son temps, avec son chauffage central, son système électrique, ses ascenseurs Otis et ses 10 000 fenêtres qui laissaient entrer la lumière. Bien peu de personnes ont eu l'occasion d'en profiter du vivant de Sarah Winchester, mais 12 millions de visiteurs se sont pressés depuis dans son étrange demeure, devenue au fil du temps l'une des maisons hantées les plus célèbres d'Amérique du Nord, l'une de ces ghost stories qui irriguent la fiction contemporaine. De Lovecraft à Stephen King en littérature, de Poltergeist à Amityville au cinéma, les fantômes sont toujours là, au sommet parfois d'un escalier qui ne mène nulle part.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler de Sarah Winchester avec Clémentine Portier-Keltenbach, nous avons le plaisir d'accueillir une journaliste qui est repartie sur ses traces. Bonjour Céline Duchesnay.
Bonjour.
Céline Duchesnay, vous êtes l'auteur de « La malédiction de Sarah Winchester, la contre-enquête », publiée chez Michel Lafon. Et pour écrire ce livre, vous vous êtes rendu en Californie, à San José, où s'élève toujours la demeure de Sarah Winchester, qui est aujourd'hui une attraction touristique. Des fantômes y accueillent les visiteurs. Et sur quoi joue-t-on pour attirer toujours autant de public ?
Eh bien justement, sur cette extraordinaire légende, à savoir une femme poursuivie par des esprits. Donc quand vous vous rendez dans cette maison, tout est en place pour que vous puissiez croire à cette incroyable histoire. La guide vous permet d'aller de salle en salle. Vous n'avez pas le droit de vous éloigner d'elle au cas où vous vous perdriez. Et peut-être que probablement jamais vous n'arriveriez à sortir de cette maison. Donc vraiment, le décor, tout comme le discours, c'est la légende. C'est attention aux fantômes, il peut y en avoir un derrière chaque porte.
À quel moment cette bâtisse est-elle devenue un haut lieu du ghost tourisme américain.
Bien, c'est ça qui est intéressant, c'est que Sarah Winchester est morte donc en 1922 et 6 mois après sa mort, la maison a été transformée en attraction touristique. Donc on n'a même pas attendu, je ne sais pas, le temps réglementaire habituel pour pouvoir continuer à faire proliférer cette légende. Et la maison a été au départ louée puis achetée par une famille qui venait des fêtes foraines d'ailleurs, puisque Monsieur Brown, l'acheteur de la maison, était spécialisé dans les montagnes russes. Et l'idée de départ, c'était d'installer des montagnes russes dans le jardin. Mais quand il a entendu cette histoire, il s'est dit qu'il y avait probablement plus d'argent à se faire en continuant à faire véhiculer cette histoire plutôt qu'en installant des montagnes russes qui commençaient à être un petit peu connues à l'époque. C'était plus la grande attraction du début ou du moins de la fin du 19e siècle.
Et cette maison, elle est très spectaculaire et elle fait la couverture de votre livre. Et on invite les auditeurs à aller regarder sur Internet à quoi elle ressemble. Mais vous, qui êtes allé là-bas dans un projet d'écriture autour de cette maison, de cette histoire, vous en attendiez sans doute confusément quelque chose. Vous l'aviez déjà vu en photo. Quelle est l'impression qu'elle vous a faite quand vous êtes trouvé devant ?
Alors, quand on a cette photo en tête et quand on arrive, eh bien déjà, on est confronté à la Californie. La Californie, c'est un ciel turquoise, c'est des palmiers, c'est des grandes autoroutes. Donc le sentiment, c'est, je dirais, presque un sentiment de déception si on aime rêver ou fantasmer sur les histoires de fantômes, je dirais.
Les sources manquent pour comprendre qui se cachait derrière la légende qui entoure la figure de Sarah Winchester, cette veuve recluse, cette femme folle rendue coupable des massacres commis avec les carabines Winchester qui avait fait sa fortune. Au cours de votre enquête, quels indices sur sa véritable personnalité vous avez récolté ?
Alors, c'est certainement pas en visitant la maison, puisque la maison, on n'aura pas...
Il n'y a pas son portrait, il n'y a rien.
Alors, il y a son portrait partout, mais je dirais qu'on ne ressent pas grand-chose de ce que pouvait avoir vécu Sarah Winchester, puisqu'on est dans une mise en scène, finalement. Par contre, si vous allez à quelques kilomètres plus loin aux archives de la ville, là, ça devient beaucoup plus intéressant, parce qu'on a retrouvé assez récemment de grandes boîtes sur lesquelles il y avait le nom de Frank Lieb, qui était l'avocat de Sarah Winchester. Donc pendant longtemps, on n'a pas ouvert ces boîtes, ne pensant pas qu'il pouvait y avoir un rapport avec Sarah Winchester. Et en ouvrant ces boîtes, on a découvert toute la correspondance que lui avait avec Sarah Winchester. Et à côté de ces boîtes, d'autres boîtes où là sont conservées toutes les archives du majordome de Sarah Winchester avec des petits carnets, des agendas où jour après jour, au crayon papier, il raconte un petit peu le quotidien de la maison. Et là, même chose, on se retrouve avec tout à coup l'image d'une femme très attentionnée qui prend soin d'eux et une fois encore, qui est tout sauf faible et stupide.
À la lecture de votre enquête, on découvre non pas donc une femme hantée par des milliers de fantômes, des victimes des carabines Winchester, mais une sorte de facteur cheval au féminin. Pourquoi, d'après vous, est-ce qu'elle a passé 20 ans de sa vie à agrandir cette immense maison ? Qu'est-ce qui l'animait ? Elle voulait donner du travail aux gens ou
Alors c'est une des hypothèses qui, à mon avis, est tout à fait plausible, mais je crois aussi qu'elle réalisait son rêve. Si vous voulez être femme à cette époque-là, en cette fin du 19e, il n'y avait pas beaucoup de marge de manœuvre. Peut-être à une autre époque, elle aurait été architecte, ingénieure, puisque c'était quand même les choses qui, de toute évidence, l'intéressaient. Elle décide donc de quitter l'Est des États-Unis pour s'installer toute seule dans l'Ouest. Donc elle fait ce qu'elle a toujours aimé faire, c'est-à-dire construire, travailler avec des bois rares, faire des innovations en termes de design intérieur. Et je pense que c'était une femme qui était avant tout à la recherche du beau et qui aimait faire. Alors, elle ne pouvait pas fabriquer de ses propres mains, donc c'est pour ça qu'elle avait beaucoup d'ouvriers. Et je pense que la femme qui arrive en Californie à ce moment-là est une femme endeuillée. Elle était amoureuse de son mari, c'était un mariage d'amour. Elle avait donc perdu sa petite fille avant. Et là, tout à coup, grâce à cette passion qu'elle partageait d'ailleurs avec son mari William, elle devient quelque part l'architecte de sa propre consolation, en faisant ce que probablement elle avait toujours eu envie de faire, un petit peu comme le facteur cheval aussi, avec un côté un petit peu obsessionnel que moi je trouve toujours intéressant quand on a comme ça une sorte de quelque chose qui vous tient dans les tripes et qui fait que tout à coup votre vie prend du sens.
Oui. Malgré tout, tout cela se passe dans ces années où les États-Unis sont fous de spiritisme. Et est-ce que un tant soit peu cette femme d'action et cette femme constructrice malgré tout croit un peu aux fantômes ou à la possibilité de communiquer avec ses morts, ou ça c'est vraiment de la pure légende ?
On n'en a aucune preuve. En tout cas, donc moi, je pense plutôt que ça fait partie de la légende. Mais c'est vrai qu'on a une époque où il est courant de croire aux esprits. Si ce n'est qu'elle, quand on a commencé à dire qu'elle était spirite, c'est à un moment où on n'y croyait plus trop. C'est-à-dire que déjà, les sœurs Fox avaient été désavouées. Donc, tout à coup, dire de cette femme qu'elle était spirite à partir du tournant du XXe siècle, ça voulait la mettre du côté de la superstition. Quand même.
Est-ce
donc,
que ça aurait pas... pu, petite question subsidiaire, si je puis me permettre, est-ce que ça aurait pu être uniquement de la comme cette histoire de voilà
je
une forme d'expiation matérielle matérialisée de des morts liées à la fortune de son mari. Bah, c'est moi, une façon de montrer, voyez, je suis bien consciente que ma fortune elle a été faite là-dessus.
Alors je suis pas tout à fait sûre que elle ait souffert de ça. Je pense qu'elle était plus dans l'esprit américain des success stories où son beau père qu'elle admirait beaucoup était parti de rien. Enfin, à 14 ans, il a commencé à travailler à la ferme. Et tout à coup, il est devenu, enfin pas tout à coup, au fil des années, à force de travail, il est devenu un des hommes les plus riches des États-Unis. Donc je pense plutôt, moi, qu'elle était fière de cette fortune.
Non, ce qui est intéressant, c'est que tout l'objet de votre livre, c'est de déconstruire la légende de la malédiction pour aller au plus près de la vérité de Sarah Winchester. Mais comment cette légende tenace s'est-elle forgée ? Qu'est-ce qui se trouve à l'origine de toutes ces rumeurs qui sont devenues une sorte de vérité établie ?
C'est la presse. C'est la presse qui a fait son mauvais travail, je dirais. Donc, à partir des années 1896, donc 10 ans après son arrivée, il y avait tout de même une interrogation autour de cette femme qui vivait donc seule dans cette maison, qui ne recevait pas, qui n'allait pas faire des charities avec les femmes de sa condition sociale, qui n'invitait pas à dîner, qui n'invitait pas à prendre le thé. Et ça, c'était pas normal. L'entourage, le voisinage, je dirais, a commencé à se poser beaucoup de questions. Et là-dessus, un premier journaliste est arrivé, a voulu l'interviewer. Elle a refusé parce que c'était quelqu'un qui était absolument discret. C'est lui le premier qui, donc en 1896, a commencé à écrire un article disant qu'on ne comprenait pas pourquoi est-ce que cette femme continuait à construire cette maison en ajoutant de plus en plus de pièces alors qu'elle y vivait seule, ce qui est une véritable interrogation parce que ça, c'est la réalité. Et que la seule possibilité, selon lui, c'était qu'elle devait être folle et superstitieuse et qu'il pensait que si elle s'arrêtait de construire, peut-être qu'elle allait mourir. Et cet article a fait complètement effet boule de neige. Il a été recopié, mais parfois à la ligne près, par d'autres collègues. Et au fur et à mesure, comme elle ne répondait pas aux questions, la rumeur a enflé. Alors, il s'avère en effet qu'elle s'appelle Winchester. Si elle s'était appelée Singer, comme les machines à coudre, je pense que probablement, on se serait moins intéressé à elle. Là, il y avait cette idée des armes qui était symboliquement quand même assez fort dans ce pays.
On en a fait pratiquement une sorcière. Mais selon vous, c'est que dans cette époque une femme qui vit totalement seule dans sa maison ne peut qu'attirer la suspicion. Ça n'est pas possible, ça n'est pas acceptable.
Elle pouvait, puisque le statut de veuve vous permet de vivre seule. Pour une femme, à l'époque, il n'y a pas 50 possibilités d'être seule. Donc, légalement, je dirais, au regard de la société, elle avait le droit d'être seule. Mais dans la réalité des faits, c'était mal vu, parce qu'elle était sous la coupe d'aucun homme. Et ça, je pense que c'était pas anodin, dans le fait aussi que cette rumeur ait pu prendre tant d'ampleur. Elle aurait été mariée, jamais ça ne serait arrivé. Elle aurait eu des enfants qui auraient grandi,
oui.
Jamais non plus.
Et couru dans le jardin et jamais. Occupé toutes les chambres.
Non, mais là, il y
ça
avait.
Ça aurait tout changé.
Voilà,
là,
voilà.
Trop de chambres, je vois le plan dans votre livre, il y a trop de chambres.
C'est vraiment incroyable.
Personne pour les habiter. Mais écoutez, merci beaucoup Céline Duchesnay. Je rappelle la parution de votre livre, La malédiction de Sarah Winchester, la contre-enquête, publiée aux éditions Michel Lafond.
Merci
beaucoup.
À vous.
Europe 1, historiquement vôtre avec Stéphane Bern.
Tous les jours, vous le savez, historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter avec Jean-Luc Lemoyne qui vient tout juste de mettre le point d'interrogation final au quiz qui est à suivre.
Exactement Stéphane, et comme d'habitude, j'ai un petit indice pour vous.
On l'écoute.
Je serai content quand tu seras là.
Serge Gainsbourg.
Bravo. Mais
les canailles.
En fait, c'était pas un blind test. On va parler de Gainsbourg, et notamment d'un épisode qu'il a rendu célèbre à la télévision.
Il a brûlé.
Il a brûlé.
Exactement. On en parlera tout à l'heure.
C'était pas avec Whitney Houston aussi qu'il y a eu une scène inénarrable. Drucker qui dit vous lui plaisez beaucoup.
Il n'a jamais osé traduire.
Ou peut-être qu'il n'est pas bon en anglais, simplement.
Ah oui, mais avant cet affrontement, on va lui laisser la parole. Clémentine Portier-Kaltenbach nous raconte des histoires dont elle seule a le secret.
Dans l'intimité de l'histoire.
Où aujourd'hui, Clémentine, vous nous racontez l'histoire d'un couple d'époux.
Maudit,
oui, aussi. La reine Draga de Serbie et son mari.
Toute cette histoire, c'est ce que vous allez retenir de façon urgente, naturellement, c'est une histoire de mésalliance. Parce que quand le jeune roi de Serbie veut épouser sa Draga, le peuple serbe est furieux parce que rien ne va dans ce mariage. D'abord, Draga, elle n'est pas noble. Elle vient d'une famille de notables de province. Son père n'est qu'un simple préfet, déjà, faute. Ensuite, elle a déjà été mariée. En 1883, un ingénieur tchèque dont elle s'est retrouvée veuve 3 ans plus tard. Bon, elle y est pour rien, la malheureuse. Mais enfin, épouser une veuve pour un roi, c'est pas top. Et puis, à la mort de son mari, pour vivre, elle est devenue dame de compagnie de la reine. Et c'est dans ce contexte que Alexandre, le futur roi de Serbie, est tombé amoureux d'elle. En fait, il était très jeune quand il la voit pour la première fois, mais quelques années plus tard, il est en villégiature chez sa maman à Biarritz. Et là, eh ben, il tombe
amoureux. Sa maman qui était la célèbre reine Nathalie de Serbie.
Du coup, il y a quand même une grosse différence.
J'ai l'impression qu'il y a quand même papa et maman qui font l'histoire, là.
Il y a quand même une grosse différence de statut social. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi la différence d'âge. Oui, oui. Parce que Draga a 12 ans de plus que le jeune monarque. Bon, alors récapitulons, Draga, elle est plus âgée. Elle a déjà été mariée. Elle n'est pas noble. Elle a été simple dame de compagnie. Bon, on est très loin de la reine idéale. Alors tout le monde est opposé à ce mariage. Les parents du roi, le gouvernement, le peuple serbe. C'est un véritable scandale. Et le ministre des Affaires étrangères rend visite au métropolite de Belgrade, qui n'est autre que le chef spirituel de orthodoxe, et il lui dit, écoutez, il faut absolument que vous refusiez de bénir ce mariage, il n'est pas question que ça se fasse. Et Alexandre apprend ça, lui, il veut l'épouser, sa Draga, il va aussi voir le métropolite, il dit, dites donc, hein, si vous refusez de bénir mon mariage avec Draga, ben moi, c'est pas compliqué, j'abdique. Bon, alors, évidemment, c'est mal parti, mais et en signe de protestation, ça a été quand même très loin, c'est que tout le gouvernement serbe a démissionné, en disant, on ne veut pas de ce mariage. Et finalement, l'issue heureuse, si l'on peut dire, viendra de l'intervention du tsar Nicolas II qui accepte d'être le témoin d'Alexandre. Et donc, ça donne une sorte d'imprimature impériale d'un voisin puissant sur ce mariage. Et donc, le mariage se fait. Alexandre épouse sa Draga le 5 août 1900. Mais enfin, cette union impopulaire affaiblit sa position dans son royaume. L'opinion publique, je le disais, est vent debout contre le mariage et ne tarde pas à faire de Draga le bouc émissaire de toutes les difficultés traversées par le pays. Un premier scandale va venir de son mensonge, Draga, parce qu'elle prétend être enceinte, alors qu'en fait, elle ne peut pas avoir d'enfant. Et la Serbie, à l'issue de cette histoire, est la risée de l'Europe. Les 3 années qui suivent ce mariage tout à fait désavoué par l'ensemble du pays et qui précèdent l'assassinat des souverains sont une période de très grande instabilité politique au cours de laquelle le malheureux Alexandre, il adopte une nouvelle constitution, puis il l'abolit, puis il la restaure. Le pays est en plein chaos politique. Alors vraiment, je vous mets au défi de suivre ça de près. Il y a guère que Stéphane pour connaître ça par cœur. Et puis en plus, Alexandre de Serbie, il hésite beaucoup. Est-ce qu'il doit faire alliance avec la Russie, avec l'Autriche-Hongrie? Grave question. Alors voilà comment un groupe d'officiers nationalistes membres de la Main Noire, une société secrète. J'adore ce genre de truc. Bon, mais ça, c'est vrai. Hein. Une société secrète nationaliste serbe et qui sont opposés à la fameuse dynastie des Obrenović à laquelle appartient le roi Alexandre, eh bien, il décide d'estourbir Alexandre Ier et la reine Draga. En gros, tous les conjurés se retrouvent à Belgrade à la nuit tombée. Ils pénètrent dans le palais. Vers minuit, on cerne la résidence des officiers loyaux au roi. Et là, tout va se dérouler dans une grande confusion. On ne sait pas exactement comment ça s'est passé, parce qu'il y a plusieurs versions de leur mort. Ils se seraient tous les deux cachés. Ils devaient être tous les deux en pyjama, là, ou en robe de chambre. Ils se sont cachés dans une pièce secrète de leur chambre. On les a dénichés. Les conspirateurs déchargent leurs pistolets sur eux. Bon, première version. Autre version, le roi est assassiné à coups de couteau. Il se jette par la fenêtre. Et là, il s'accroche à la fenêtre. Et alors, on vient lui couper tous les doigts pour qu'il lâche le bord de la fenêtre. Bon, quoi qu'il en soit, ils sont tués tous les deux. Ils sont passés par la fenêtre, en effet. Et il y a même une version, alors là, tout à fait douteuse, me semble-t-il, qui prétend qu'ils auraient atterri sur un tas de fumier. Est-ce que vous croyez ça, Stéphane, qu'il peut y avoir un tas de fumier sous la fenêtre d'un roi? Eh ben moi non plus, j'y crois pas du tout. Faut pas nous la faire à nous, hein? Pas de tas de fumier sous les fenêtres. Alors la reine Draga et le roi Alexandre sont enterrés à l'église Saint-Marc de Belgrade. C'en est fini de la dynastie Obrenović.
mais pas de la main noire. Car c'est elle qui, en 1914, commanditera l'attentat de Sarajevo contre l'archiduc François Ferdinand d'Autriche. Et cet attentat-là sera ô combien plus grave, hélas, que l'assassinat déjà tragique des époux maudits, car il sera l'élément déclencheur de la Première Guerre mondiale et de ses millions de morts.
Bravo, merci Clémentine.
Ça, vous pouvez le dire, parce qu'il y avait quand même une espèce de logique implacable derrière ce récit.
Et maintenant, c'est le moment de l'émission. Vous le savez, chers auditeurs, je ne contrôle plus rien. C'est vous, Jean-Luc, qui prenez la main pour le quiz que vous présentez avec un enthousiasme assez touchant, presque naïf même. Peut-être aussi parce que vous aimez nous humilier en posant des questions farfelues, donc vous comprenez à peine le sens, parce qu'elles ont été livrées par Sébastien Bordenave il y a une demi-heure.
Calmez-vous, mon petit bonhomme, hein, parce que là, vous commencez à déraper. Allez, on joue tout de suite. On y va. On commence avec vous, Stéphane. C'est au début du XVIIe siècle qu'un scientifique hollandais du nom de Drebbel teste sur la Tamise une embarcation semi-submersible. En France, en 1863...
C'est Fulton.
De quoi Fulton?
Fulton, son premier et son sous-marin.
Si vous voulez, vous faites le boulot à ma place, ma bonne dame.
Je peux tout faire. Je suis extrêmement polyvalente.
Je vais vous dire, Clémentine, je vous maudis.
Maudit.
On va pas sens... Ça va vous suivre longtemps, ce maudit. En France, en 1863, le premier sous-marin à moteur à air comprimé embarque 7 membres d'équipage.
Ah, en 1863?
Exactement. Déjà à cette époque, la lumière est rouge dans l'appareil. Depuis, dans les sous-marins, la lumière est toujours rouge, vraie.
Et dans les
ou
bateaux
faux.
Aussi, cher monsieur.
Excusez-moi, mais elle fait partie de l'émission, la dame, là?
Je ne la connais pas.
On est d'accord.
Elle est maudite.
Maudite.
Donc la question pour vous, Stéphane.
Alors,
est-ce que la
vous
lumière...
Vous pouvez répéter la question.
En 1863,
est-ce que la lumière a toujours été rouge?
Non, c'est-à-dire que là, c'est une affirmation. Dans le premier sous-marin, la lumière était rouge. Depuis, dans les sous-marins, la lumière est toujours rouge, vrai ou faux?
Ça a l'air trop évident que ce soit rouge. Donc, je pense qu'il y a... ça a changé de couleur, voilà.
On vérifie ça.
Vous avez... gagné.
Bah, c'est pas vrai.
Le problème, Clémentine, c'est que vous n'écoutez pas les questions. J'ai pas dit qu'il n'y avait pas de lumière rouge. La question, c'est est-ce que la lumière est toujours rouge? D'abord parce que donc, la lumière dans les sous-marins n'est pas toujours rouge. En fait, elle est rouge quand c'est la nuit.
Bah, c'est ce que j'ai dit.
Et blanche quand c'est le jour. Oui, mais vous n'avez pas écouté la question. Vous savez ce que vous risquez.
Bon, de toute perte de points.
Voilà. Là, récemment, j'ai été moins brillante, hélas.
Parce que très péremptoire.
Exactement. C'est le moment de vous refaire la cerise, comme on dit.
Allons-y.
L'année prochaine, on fêtera les 40 ans de ce moment télévisuel culte. Gainsbourg brûle un billet de 500 francs en direct sur TF1 dans l'émission. Est-ce que vous vous en souvenez?
C'était pas l'émission de aussi l'émission de Drucker, là, qui s'appelait Champs-Élysées ou un truc comme
tout
ça.
Tout à fait, c'était 7 sur 7.
Ah, c'était à 7 sur 7 avec Anne Sinclair, alors, c'est ça?
Je ne sais pas si c'était Anne Sinclair à l'époque. Non, je ne crois pas.
Peut-être
Yvan Levaille. Non, pas Yvan Levaille. Bon, en tout cas, c'était quelqu'un d'autre. Il dit à l'époque, je sais bien que c'est illégal, mais je vais le faire. Voici ma question. Est-ce que c'était illégal de brûler un billet ou ça ne l'était pas?
Eh bien, écoutez, je...
Alors, c'était illégal ou pas?
Alors, je dirais non, ça n'était pas illégal. Ce qui est illégal, c'est la contrefaçon. Je pense que brûler un billet...
mais là, d'accord, mais la contrefaçon...
Est-ce
là, c'est
que brûler
une
un
question,
billet pourrait
c'est,
être
le sait.
Illégal?
Alors, illégal ou pas?
Là. Non, c'était pas illégal.
C'était pas illégal.
Vous avez gagné!
En fait, une jurisprudence de 1974 considère que détruire un billet n'est pas la destruction d'un bien d'autrui, car le billet n'est pas considéré comme la propriété de la banque centrale. Stéphane, sachez donc que si vous le souhaitez, vous pouvez brûler tout de suite un billet de 100 euros.
Il faudrait les avoir déjà pour
20,
les brûler.
20,
c'est
20. 5
C'est 20.
D'accord. On va pas s'amuser à ça.
Mais en plus, il y a une alarme incendie dans le studio.
C'est
un peu dommage.
C'est que ça qui vous arrête.
Parce que vous avez dit, si vous voulez arrêter l'émission, dites-le. Et
on va brûler un billet de 5 euros, on va arrêter l'émission tout de suite. Allez Stéphane, c'est à vous. Pour l'instant, vous êtes ex aequo, un partout. Je ne sais pas si vous avez dernièrement assisté à un concert de heavy metal, Stéphane.
Ni dernièrement, ni plus lointainement.
Peut-être connaissez-vous l'origine du geste qui consiste à brandir le poing avec l'auriculaire et l'index sorti. Vous savez ? Ouais, exactement, le signe un peu rock, tu vois. Ce signe date de 1764. Il est décrit dans le roman gothique de Horace Walpole.
Walpole, oui.
Vrai ou faux ?
C'est quoi ? C'est lié à peut-être la bataille de Culloden ? Ça peut être un truc des Écossais, ça ? Qu'est-ce que c'est ?
Ah bah, je ne vais pas vous le dire tout de suite, hein. Il va falloir réfléchir un petit peu.
La question n'aurait pas de sens, c'était faux. Là, c'est très précis, Horace Walpole, son livre.
C'est ça, mais comme nous ne sommes pas des spécialistes.
Si ça se trouve, c'est un truc d'un.
Comme mon quiz est complètement absurde, comme je ne comprends pas les
rocker,
questions.
D'un rocker danois.
C'est vrai.
C'est
vrai,
hein. Intéressant, c'est vrai. Cas,
c'est vrai. C'est vrai, ben, on va vérifier tout de suite.
Vous avez. Perdu.
Et non, c'est faux. Ce geste est né grâce à Ronnie James Dio, un chanteur de heavy metal connu.
Qu'est-ce que je viens de dire ?
Qui a sévi dans le groupe.
Je viens de le dire.
Bah, vous connaissez Ronnie James Dio ?
Non, mais j'ai dit, vous allez voir, c'est un chanteur danois de heavy metal qui a mis ce truc au point.
Ouais, il n'était pas danois du tout. Il faisait partie du groupe Black Sabbath.
Ah oh bah ouais, je connais très bien.
Ah oh, si, c'est...
Ah oh bah oui, mais ça, on connaît... Ça, c'est très connu, ça.
Mais je... Clémentine elle m'insulte maintenant parce que je ne connais pas.
Et est-ce que vous savez pourquoi il faisait ça?
On va l'écouter en concert tous les deux.
Il faisait ça, Ronnie James Dio, parce que sa grand-mère le faisait aussi pour chasser les mauvais esprits.
Oh. Ah.
Ronnie nous a quittés en 2010, il avait 67 ans.
Ah, quand même, il a vécu vieux pour un chanteur de heavy metal.
Ce que ça veut dire, okay, c'est que Clémentine peut remporter ce quiz si elle répond bien à cette question.
Bon, je retrouve mes esprits.
Oui.
En 1944, un attentat contre Hitler en Pologne, à Gerloz, échoue. Un peu à cause de la chaleur ou un peu à cause du froid?
Est-ce qu'il a fait trop chaud? Est-ce que c'était de la nitro?
Moi, je dis que c'était trop chaud parce que ça se passait en août 1944.
Ça se passait en août en forêt. Ouais.
En 1944, donc il faisait trop chaud.
Je peux vous aider peut-être, c'est l'opération Valkyrie.
Oui, c'est ça, mais c'est ça.
Donc je pense que Stéphane a raison, c'est en août, donc il fait chaud et donc l'explosif devait être instable. Et il sait pas, est-ce qu'il s'est déclenché trop tôt? Ce qui a fait quand même de gros dégâts, mais pas le dégât essentiel.
Il n'est pas mort.
Vous êtes sûr de vous?
Oui.
Non, moi je ne suis pas sûr, mais, je pense que sa réponse est logique.
Vous pouvez encore changer.
En fait, ce jour-là, il a fait particulièrement froid, parce que c'était à la nuit tombée, et dans la forêt noire, et voilà. Donc il faisait froid, et l'explosif ne s'est pas déclenché au bon moment.
Il faisait froid, on vérifie.
Vous avez perdu.
Ah bah voilà.
Vous êtes maudite.
Ah, c'est pas de chance, hein.
Elle aurait pu gagner.
Oui,
si elle
aurait pu.
Si elle avait dit que
c'était
mon conseil en disant qu'il faisait trop chaud.
Si je n'avais pas été fourbe, elle aurait gagné. Ouais. On est en juillet, il fait très chaud. Beaucoup de circonstances vont faire donc échouer l'opération Valkyrie.
Oh, j'aurais jamais pensé
Parmi
à ça.
Parmi elles, le fait que le Führer ne fasse plus une réunion dans le bunker piégé où il fait une chaleur étouffante, mais dans un cabanon à proximité plus frais. Cette année, réchauffement climatique.
Ah zut, alors on a la dernière question du coup.
Eh oui, la question qui va vous départager. Howard Carter, britannique, restera dans l'histoire comme étant l'homme qui a découvert en 1922 la tombe du pharaon de la 18e dynastie, Toutankhamon.
Oui.
On a souvent parlé de malédictions touchant les archéologues de cette époque. Mmh. Au bout de combien de temps est mort Howard Carter après avoir découvert le tombeau? Vous me donnez la réponse en jour ou en mois ou en année, comme vous voulez.
3 ans.
3 ans pour Stéphane et pour vous, Clémentine.
9 ans.
C'est une joie de vous annoncer qu'aujourd'hui, celui ou celle qui gagne ce quiz... C'est Clémentine. La bonne réponse est 17 ans, donc pas trop de malédiction pour Howard. Même si la veille d'ouvrir la tombe, un cobra s'était introduit dans sa tente et avait tué son canari. Est-ce que c'est ça de la malédiction?
Il a été maudit, lui.
Il était maudit aussi.
Ah bah oui.
Bravo Clémentine.
C'est la malédiction du canari, c'est bien connu.
Europe 1. Historiquement vôtre.
Historiquement vôtre continue avec Jean-Luc Lemoine, David Cassel-Lopez, Virginie Giraud et nos personnages du jour qui sont
maudits.
Après Sarah Winchester et sa vaste demeure censée piéger les fantômes, je vous raconte un roi
maudit.
Et même le premier d'entre eux, Philippe le Bel. Et vous, Jean-Luc, vous allez nous raconter un personnage
maudit,
bien vivant, lui. Et ce qui n'est pas le cas de tout le monde, dès qu'il marque un but.
Oui, la folle histoire d'Aaron Ramsey, un footballeur international dont la carrière s'accompagne d'une étonnante malédiction. Dès que le Gallois marque un but, une célébrité meurt. Et ça fait plus de 10 ans que ça dure.
Mais ça donne... c'est inquiétant, ça.
On n'a pas envie de l'encourager.
Non.
Europe 1, historiquement vôtre. Le récit. Stéphane Bern.
Il a fait la guerre aux Flamands et aux Anglais. Il a tout fait pour renforcer le pouvoir royal et avait tendance à ne pas reculer devant grand-chose pour y parvenir. Je vous raconte maintenant le petit-fils de Saint-Louis, le roi de fer, le premier des rois maudits, Philippe le Bel. Nous sommes le 18 mars 1314 en plein cœur de Paris, sur une petite langue de terre émergée au milieu de la Seine, qu'on appelle alors l'île aux Juifs, au bout de l'île de la Cité. À cet endroit qui correspond peu ou prou au square du Vert-Galant aujourd'hui, on a élevé un double bûcher. Deux hommes, tirés le matin même de leur cachot, y sont solidement attachés au milieu des fagots arrosés de suie. Le premier, c'est Geoffroy de Charnay, grand prieur de l'ordre du Temple en Normandie. Le second est son supérieur, Jacques de Molay, le 23e et dernier grand maître des Templiers. Ordonné par le roi de France, Philippe le Bel, leur exécution doit être le dernier acte de la guerre que le souverain livre depuis des années à l'un des ordres religieux les plus puissants de la chrétienté. Depuis son arrivée sur le trône en 1285, celui qu'on appelle le roi de fer n'a en effet eu qu'une obsession, renforcer le pouvoir des Capétiens en affrontant tout ce qui peut le brider, y compris à l'Église et à ses ordres les plus riches et les plus puissants. En s'attaquant aux Templiers, c'est à un État dans l'État que s'attaque le roi de France. Autrefois soldats, désormais banquiers, les Templiers ont accumulé une fortune considérable au temps des croisades. Leur richesse réelle ou fantasmée fait bien des envieux, à commencer par Philippe le Bel, bien décidé à en annexer une partie, quitte à recourir aux pires mensonges. La première étape a conduit à l'arrestation de tous les Templiers du royaume à l'automne 1307, le même jour et à la même heure. Depuis, le petit-fils de Saint-Louis ne recule devant rien pour saper la réputation d'un ordre qui pourtant ne dépend en théorie que du pape. Philippe le Bel et ses conseillers, les fameux légistes, s'en moquent. Les Templiers sont accusés de pratiquer la sodomie entre frères, de renier le Christ, d'adorer le diable et de cracher sur la Sainte Croix. Ce procès, ou plutôt cette cabale contre les Templiers, est purement politique. Mais le travail de sape finit par payer. Lâché par le pape Clément V, l'ordre des Templiers finit par être officiellement dissous en 1312 au concile de Vienne dans le Dauphiné. Le reste n'est guère que la queue de comète d'une entreprise de démolition systématique qui finit par détruire l'un des ordres religieux les plus prestigieux d'Occident. Après 7 années d'efforts, Philippe le Bel tient sa victoire devant le bûcher de l'île aux Juifs, ou croit la tenir, du moins. Parce que ce matin-là, Jacques de Molay prend la parole une dernière fois. Qu'a-t-il dit alors que les flammes s'apprêtent à le dévorer après 7 ans de torture, de cachots et de faux espoirs? Un dernier défi, peut-être? Une dernière menace? C'est en tout cas cette version qui a marqué des générations de spectateurs par la grâce d'une œuvre célèbre de Maurice Druon, Les Rois Maudits, adaptée sur le petit écran par Claude Barma en 1972. Dans une scène fameuse, le dernier grand maître de l'ordre des Templiers rugit, un peu à la manière de Clémentine Portier-Kaltenbach tout à l'heure, une prophétie qui aura valu bien des cauchemars aux plus jeunes de nos téléspectateurs. Pape Clément, chevalier Guillaume de Nogaret, roi Philippe, avant 1 an, je vous cite apparaître au tribunal de Dieu.
Maudit ! Maudit ! Maudit !
Tous !
Maudit !
Jusqu'à la 13e génération de vos races. Le talent de Druon a certes beaucoup fait pour la légende de l'ordre des Templiers, mais le romancier n'est pas tout à fait parti de rien au moment d'écrire cette scène. En réalité, il a brodé autour d'un témoignage bien réel, celui d'un témoin de la mort de Jacques de Molay, Geoffroy de Paris, clerc du roi, qui dit avoir entendu ceci de la bouche du dernier maître de l'ordre. « Dieu sait qui a tort et a péché, et le malheur s'abattra bientôt sur ceux qui nous condamnent à tort. Dieu vengera notre mort. » Que Geoffroy de Paris ait eu lui-même l'imagination, quelque peu fertile ou pas, finalement qu'importe, à en juger par l'invraisemblable suite de scandales et de souffrances qui attend non seulement Philippe le Bel, mais toute sa descendance, on frôle effectivement le surnaturel, et il ne faut pas longtemps pour s'en rendre compte. Les premiers drames ne touchent pas le roi pourtant, mais le pape. Clément V, le pontife, qui avait fini par lâcher l'ordre du Temple pour complaire au tout-puissant roi de France, meurt 1 mois à peine après Jacques de Molay, rongé par un cancer des intestins. Du côté de Philippe le Bel, la malédiction prend d'abord la forme d'un des plus grands scandales de l'Ancien Régime, une affaire qui éclate là encore au printemps 1314, quelques semaines seulement après le bûcher de l'île aux Juifs. La rumeur qui courait depuis quelques semaines se confirme. Marguerite, Jeanne de Bourgogne et sa sœur Blanche, les 3 belles-filles du roi, sont prises dans une bien vilaine affaire de mœurs. L'enquête montre que Blanche et Marguerite, depuis des mois, trompent allègrement leurs époux en s'adonnant à la débauche dans la fameuse tour de Nesle, en compagnie de jeunes chevaliers, les frères Daunet. Jeanne, elle, n'a rien fait d'autre que de protéger cet incroyable secret. Mais l'ampleur du scandale est inouïe. Et pour cause, au-delà du péché d'adultère, au-delà de la honte de voir deux de ses fils réduits à ce rôle de cocu, Philippe le Bel fait face à une affaire d'État. En trompant leur mari, Blanche et Marguerite laissent le doute planer sur toute la lignée. Et l'accusation de bâtardise n'est pas loin. Le châtiment est bien sûr exemplaire. Les frères Daunet sont écorchés vifs, castrés et pendus, ça c'est le minimum. Marguerite est tondue et finit par mourir dans les cachots de Château-Gaillard. Blanche finit ses jours au couvent et Jeanne, la moins coupable, est la seule à retrouver son rang au terme d'une affaire qui empoisonne l'été 1314. Au moins, Philippe le Bel ne souffrira-t-il pas longtemps ? Alors qu'il est encore plutôt jeune, 46 ans à peine, il meurt brutalement le 30 novembre 1314, victime peut-être d'un AVC. Deux morts et un scandale retentissant en quelques mois, c'est déjà beaucoup. Mais cela n'est pas fini, loin de là. À la mort du roi de fer, c'est son fils Louis X le Hutin qui monte sur le trône. Il ne faut pas 2 ans pour qu'il meure à son tour, pour avoir bu du vin trop froid après une partie de jeu de paume. Son fils à naître, Jean le Posthume, ne vivra pas 3 jours. Et c'est donc son frère Philippe V le Long qui hérite du trône en 1316. Mais la série noire continue. 5 ans plus tard à peine, en 1322, le règne court de Philippe le Long s'arrête net lorsqu'une fièvre emporte le souverain. Qu'à cela ne tienne, Philippe le Bel avait un troisième fils, Charles IV, qui monte à son tour sur le trône, mais patatras, en 1328, malade à son tour, le dernier enfant du roi de fer passe l'arme à gauche à son tour. Et cette fois-ci, il n'y a plus d'héritier direct. Alors que la couronne de France se transmettait de père en fils depuis 3 siècles, la dynastie des Capétiens directs vient de s'effondrer en moins de 15 ans pour laisser la place à celle des Valois. Mais la malédiction de Jacques de Molay va empoisonner la vie du royaume pour longtemps. Mal réglé, le conflit de succession qui commence avec la mort du dernier fils de Charles le Bel va servir de prétexte au déclenchement d'un conflit déjà larvé entre la couronne de France et celle d'Angleterre, la guerre de 100 ans.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler de Philippe le Bel, nous avons le plaisir d'accueillir un historien médiéviste qui le connaît bien. Bonjour Xavier Larry.
Et bonjour.
Xavier Larry, vous êtes professeur d'histoire du Moyen-Âge à la Sorbonne Université, auteur du livre « Les Templiers, leurs faux trésors, leur vraie puissance ». Dans sa saga « Les rois maudits », Maurice Druon s'est emparé d'une légende, celle de la malédiction lancée par Jacques de Molay à l'encontre de ses bourreaux. On écoute Gérard Depardieu qui l'incarnait en 2005 dans une adaptation pour la télévision.
Pape Clément, chevalier Guillaume de Nogaret, roi Philippe, avant 1 an, je vous cite à apparaître au tribunal de Dieu. Maudit, maudit, soyez maudit jusqu'à la 13e génération de mon règne.
Quelle réalité historique se cache derrière cette réplique restée célèbre, mais finalement totalement inventée ?
Alors c'est vrai que c'est une forme de transfiguration qu'a faite Maurice Druon dans les Rois maudits. Il est probable que la mort de Jacques de Molay sur le bûcher, puis des autres dignitaires du temple avec lui, a beaucoup frappé les contemporains et que ceux-ci ont été touchés par le sort des derniers templiers. Il n'est pas sûr du tout qu'il y ait eu une malédiction, on est même plutôt sûr du contraire. Et il y a eu plusieurs chroniqueurs qui ont évoqué, dans des circonstances différentes, pas forcément à propos de Jacques de Molay, mais à propos d'autres templiers, des formes de protestation de ce type-là. Mais concernant Jacques de Molay, on est un petit peu démunis. Un des chroniqueurs dont vous avez évoqué le nom, qui est Geoffroy de Paris, dit bien quelque chose un peu de cet ordre-là, mais il ne va pas jusqu'à la malédiction, il ne va pas jusqu'à la 13e génération non plus. Et il y a un autre chroniqueur, qui est Giovanni Villani, qui est un Italien, qui meurt en 1348, et qui dit que dans les restes du bûcher, des Parisiens ont essayé de trouver les ossements calcinés de Jacques de Molay et des autres, considérant que ça pouvait être des reliques de martyrs. Et donc, on aurait l'idée que, quand même, pour les contemporains eux-mêmes, finalement, les Templiers sont des martyrs, en fait. Mais il n'y a pas cette idée de malédiction.
Jean-Luc ?
Alors, même si on ne peut pas parler de malédiction, c'est quand même pas très bien fini pour tous ces rois. Est-ce que c'est une coïncidence ou...
Oui, parce que 13 générations, si vous comptez bien, Ça finit avec Louis XVI, non?
Ouais, alors je crois pas, je crois que ça se termine plutôt avec les descendants de Louis XIV ou quelque chose comme ça. Ah oui. Donc c'est pas tout à fait évident. C'est le hasard, hein, le hasard. Et d'ailleurs, Maurice Druon s'est un petit peu trompé parce qu'il fait dire à Jacques de Molay qu'il maudit aussi Guillaume de Nogaret. Mais Guillaume de Nogaret est mort en 1313, en fait. Donc un an avant la prétendue malédiction. Donc là, ça ne colle pas. Que Clément V était malade depuis longtemps, donc il meurt, c'est assez logique. Que Philippe le Bel meurt, voilà, il avait 46 ans, ce qui est jeune, mais en même temps, bon, il a eu un accident. Donc ce n'est pas absolument improbable, en fait. Et il est possible que, puisque les médiévaux pensaient qu'il y avait une sorte de justice immanente, ils ont pu lier la mort à peu de mois d'intervalle de Clément V et de Philippe le Bel. Ils ont pu lier ces deux morts à une sorte de châtiment, mais sans forcément évoquer une malédiction de Jacques de Molay.
Pour reprendre le titre de votre livre, quelle était la réelle puissance des Templiers à cette époque? C'était vraiment, comme on l'a dit, un État dans l'État?
Alors, bon, c'est sous le règne de Philippe le Bel qu'apparaît justement cette notion d'État et la réalité de l'État en France. Donc, c'est vrai que l'ordre du Temple avait, disons, une triple puissance militaire en Terre Sainte, puisque c'est les Templiers qui tenaient la Terre Sainte jusqu'en 1291, hein, puisqu'après 1291, il n'y a plus rien. Une puissance politique, parce que c'était un ordre qui était, dont le patrimoine était réparti dans toute la chrétienté et qui dépendait directement du pape. Donc le maître du temple, c'était un personnage considérable dans la chrétienté. Et puis, troisième point, un prestige symbolique ou un pouvoir symbolique, dans la mesure où était attaché à cette vocation de chevalier du temple, à la fois religieux et combattant, un prestige singulier dans la chrétienté du temps. Il y a des vocations jusqu'au bout, et quelques mois avant l'arrestation des Templiers en 1307, il y a encore des jeunes frères qui se font admettre dans l'ordre.
Qu'est-ce qui justifie un tel acharnement de la part du roi de France contre l'ordre du Temple? Il a tout mis en place pour l'anéantir. Quelles étaient ses motivations? Et puis surtout, il a menti, parce qu'il n'y a jamais eu de rite. Alors peut-être les rites étaient secrets, mais rien de tout ce qu'il a proféré comme accusation n'est vérifiée.
Non, c'est vrai qu'il y a un côté tout à fait effrayant dans le règne de Philippe le Bel. C'est à la fois l'État qui apparaît, puis c'est la raison d'État qui apparaît. Et on a l'impression que pour obtenir la condamnation des Templiers, Philippe le Bel ou ses conseillers ont tout mis en œuvre, y compris en inventant donc toutes sortes d'accusations qui ont été validées par des aveux, mais des aveux obtenus sous la torture, donc qui n'avaient aucune validité. Et on parle souvent, par exemple, de cette statue, le Baphomet, que les Templiers auraient adoré. Mais quand les Templiers ont été arrêtés, on a aussi fouillé toutes les commanderies. On n'a pas trouvé, dans toutes les commanderies qu'on a fouillées dans le Royaume de France, une seule de ces statues. Donc, à l'image du reste des accusations, celle-ci tombe et elle est absolument infondée.
Mais quelles étaient les réelles motivations du roi? C'était pour asseoir sa puissance et fonder l'État?
Alors, longtemps, on a pensé que c'était des raisons financières, notamment parce que Dante, le grand poète florentin, évoque cette raison, et c'est un contemporain de Philippe le Bel. Aujourd'hui, les historiens se détournent un petit peu de cette motivation, qu'il faudrait peut-être reprendre toutefois, parce qu'il y a peut-être un enjeu financier malgré tout, comme pour les Juifs ou les Lombards. Mais les deux explications qu'on retient traditionnellement aujourd'hui, c'est plutôt le fait que Philippe le Bel veut supprimer tout ce qui entrave la marche vers la construction de cet État. Et on a parlé de Philippe le Bel comme d'un dévot de l'autorité royale. Et finalement, l'arrestation des Templiers s'inscrit dans une suite qui a vu déjà le roi s'en prendre au comte de Flandre, au duc d'Aquitaine, qui était le roi d'Angleterre, aux Juifs, aux Lombards, et puis aussi au pape, qui représentait une autorité alternative dans le royaume, puisque le pape avait autorité sur l'Église du royaume, ce qui était un pouvoir très considérable. Donc finalement, les Templiers, sans doute n'étaient-ils pas coupables, mais ils ont été victimes de cette raison d'État et ils ont été offerts en sacrifice finalement pour faire triompher l'État, également en supplantant le rôle du pape, puisque, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, le pape a autorité sur l'ordre du Temple. Hein, c'est un ordre qui est immédiatement sous l'autorité du pape. Et donc, Philippe le Bel a voulu se substituer au pape. Et c'est, encore une fois, cette marche vers l'État qui se trouve ici caractérisée.
Virginie ?
Est-ce que la population était favorable à l'ordre des Templiers à travers l'Europe? Comment est-ce que l'exécution de Jacques de Molay a été perçue? Parce qu'il était quand même le grand maître des Templiers.
Oui, alors, sans doute, les Templiers étaient-ils jalousés du temps de leur puissance, c'est-à-dire jusqu'en 1307, parce que c'était un ordre très riche, un ordre qui avait été critiqué parce que la Terre Sainte avait été abandonnée et perdue en 1291. On peut penser, malgré tout, que le sort qui a été fait aux Templiers à partir de 1307, l'énormité des accusations et le recours systématique à la torture, eh bien, tout ça a suscité quand même la sympathie dans l'opinion. Et puis, il faut distinguer ce qui se passe dans le Royaume de France, où la parole est contrainte, où les princes et les évêques doivent valider les décisions de Philippe le Bel, donc adhérer à la question de la culpabilité, enfin à l'idée d'une culpabilité des Templiers. Et puis ce qui se passe dans le reste de l'Europe, où les Templiers ont été arrêtés, mais ils n'ont pas vraiment été pourchassés. Et en 1312, quand le pape Clément V supprime l'ordre du Temple, eh bien, il dit, voilà, je supprime l'ordre du Temple, mais je ne le condamne pas. Et on n'a plus le droit d'en parler, on n'a plus le droit d'évoquer la question. C'est-à-dire que, mis à part Philippe le Bel et son propre entourage, personne ne croyait à la culpabilité des Templiers.
Merci beaucoup, Xavier Larry. Votre livre « Les Templiers » est disponible aux éditions Pocket. Merci beaucoup.
Merci.
Europe 1, historiquement vôtre.
Stéphane Bern.
Aujourd'hui, dans Historiquement Vôtre, avec Jean-Luc Lemoyne, David Castillo-Lopez et Virginie Giraud, on réunit des personnages maudits. Après Sarah Winchester et Philippe Lebel, vous nous racontez, Jean-Luc, le footballeur maudit Aaron Ramsey.
Aaron Ramsey, oui. Footballeur international né en 1990 au Pays de Galles. Est atteint d'une malédiction peu banale. Il semblerait qu'à chaque fois qu'il marque un but, une célébrité mondiale décède dans la foulée. Alors, véritable malédiction ou malheureuse coïncidence statistique ? J'ai enquêté. J'ai enquêté aux frontières du réel, c'est-à-dire sur Internet. Cet endroit étrange, c'est ça. Cet endroit étrange, vous savez, où on peut trouver des vidéos marrantes, des photos de chats à poil ou encore Stéphane Bern déclarant bruyamment son amour pour Emmanuel.
Oh, vas-y, Manu, transcende-moi.
Je parlais d'Emmanuel Kant, je précise dans mon spectacle.
Oui, c'est bien de préciser. Oui, c'est bien de préciser parce que, sans ça, contexte, ouais. C'est bizarre. Oui. Enfin. Vous êtes si imprévisible en même temps. On ne sait jamais avec vous.
Transcendantal aurait dû vous mettre la puce à l'oreille. On parle d'Emmanuel Kant.
Exactement. Aaron Ramsey a commencé sa carrière de footballeur en 2009. Mais c'est en 2011 que la malédiction s'est déclarée, puisque cette année-là, trois de ses buts furent rapidement suivis par les disparitions de Kadhafi, Steve Jobs et Ben Laden. Sans viser personne, ça fait au moins deux bonnes raisons de se réjouir. Ceux qui croyaient naïvement que Ben Laden avait été tué par l'armée américaine, Steve Jobs par le cancer et Kadhafi par BHL, détrompez-vous. C'est à cause d'Aaron Ramsey, footballeur passé par les clubs d'Arsenal, de la Juventus et actuellement à Nice. Alors, la Côte d'Azur à 32 ans, ça sent la fin de carrière pour un joueur en perte de vitesse ces dernières années. À tel point que les célébrités du monde entier commençaient à se réjouir. Un peu trop vite. Car la malédiction n'a pas pris sa retraite. Il lui manquait visiblement encore quelques trimestres, quelques victimes. Et ça n'a pas tardé, puisque le 7 août 2022, dès le premier match de la saison, but d'Aaron Ramsey, vous connaissez le tarif, quelqu'un de célèbre doit mourir. Et cette fois-ci, c'est tombé sur...
Olivia Newton-John.
Olivia Newton-John. Qu'est-ce que vous êtes fort ou qu'est-ce que vous avez comme fiche. Un choix un peu surprenant, parce qu'à vrai dire, elle-même avait oublié qu'elle était célèbre. Mais pas de bol pour l'héroïne de Grease. La malédiction lui a dit... You're the one what I want. Tu es celle que je veux. Personne n'est donc à l'abri. Même une petite pause de 50 ans dans sa carrière ne suffit pas à se faire oublier. Ça commence à pétocher du côté de Patrick Hernandez. La peur règne sur le showbiz. Heureusement qu'Aaron Ramsey n'est pas un grand buteur. Imaginez Messi ou Mbappé atteint du même mal, ça serait l'hécatombe. Plus personne ne voudrait devenir célèbre et ce serait la fin de la télé-réalité. Oui, ce serait terrible. Rien que d'imaginer la détresse chez W9, je me sens maintenant investi d'une mission sacrée. Démonter cette soi-disant malédiction afin qu'elle devienne, comme la limitation à 80 sur les routes de campagne, une légende urbaine qui fait rigoler tout le monde. Attention quand même, restez prudent sur la route pour ne pas finir comme Paul Walker. En effet, en 2013, l'acteur de Fast and Furious serait lui aussi, d'après Internet, décédé à cause d'Aaron Ramsey. Et à cause d'un platane, d'après la police. Vous aurez compris à qui je fais le plus confiance. Pour moi, cette malédiction est comme le célèbre pharaon, tout en carton. Je sais que cette blague de CM2 peut par contre tuer ma carrière.
Non, on rit quand même.
Ça va. Non, c'est inoffensif. Et puis, rappelons-nous que peut-être, il y a des enfants qui écoutent Historiquement Vôtre. Hein, il faut penser à eux. Stéphane, vous n'avez pas l'air convaincu.
Reprenez un peu de chocolat chaud avec votre BN.
Non, mais vraiment, j'y crois pas, cette malédiction. Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'elle n'est pas assez lourde à porter. Avec cette histoire, on est loin de l'anathème jeté par Jacques de Molay, le grand maître templier. On est plus proche de la vengeance du pharaon Aaron Ramsès II. Un running gag hein, pour les internautes désœuvrés. Et si Aaron Ramsey a un seul point commun avec le roi maudit Philippe le Bel, c'est plutôt la beauté. Puisqu'en 2014, il a signé un contrat de mannequinat avec l'agence Elite. Ce mec a tout pour lui. On dirait David Ginola, autre maudit célèbre. Meilleure preuve que cette malédiction est en carton, même Ramsey s'en tamponne. Après avoir prétendument entraîné la mort de Whitney Houston en 2012 et David Bowie en 2016, s'il avait pris l'affaire au sérieux par respect pour la musique, il aurait levé le pied. Au lieu de ça, en 2018, il marque carrément un triplé dans le championnat anglais. Comme s'il voulait finir d'un seul coup les trois cafés gourmands. Et bien à la place, il a eu les Bogdanov. Mais 3 ans plus tard, et c'était le Covid.
Ils étaient que 2.
En plus, il n'y a rien qui colle.
Ils en valaient 3.
Il n'y a rien qui colle. Mais on peut rigoler, car contrairement aux carabines de Sarah Winchester, Aaron Ramsey n'a évidemment jamais fusillé personne, à part quelques malheureux gardiens de but. Tout ceci n'est que coïncidence macabre, comme on peut en trouver avec n'importe quoi. Par exemple, le 19 octobre 2022, est décédée l'actrice française Lucienne Legrand, à l'âge de 102 ans. Devinez quelle est la dernière chose qu'elle a vue avant de mourir.
Un tir au but d'Aaron Ramsey.
Pas du tout. Non. C'est sans doute vous, Stéphane.
Ah oui ?
Puisque la veille de sa disparition, c'est la première diffusion de votre téléfilm Belfond sur France 3. Je dis pas que c'est de votre faute. Mais quand on sait qu'elle a tourné avec Arletty et Jean-Louis Barrault dans Les Enfants du Paradis en 1945, on pourrait comprendre que vous voir à l'écran, ça l'a un peu secoué.
Hein ? Ah non.
Disons que si elle avait déjà été morte, elle se serait peut-être retournée dans sa tombe, mais comme elle était vivante, bah du coup, elle est morte.
Vous êtes horrible. Non, mais... C'est mon jeu. Mon jeu l'a perturbé.
Oui, mais écoutez.
Elle a eu un choc.
Mais non, elle s'est dit qu'il fallait laisser la place.
Exactement. On ne peut bien sûr pas parler de malédiction de Stéphane
Bern. À 102 ans, excusez-moi, la probabilité pour mourir dans son fauteuil devant la télévision est quand même plus forte.
Elle avait résisté à tout, Stéphane. On ne peut bien sûr pas parler de malédiction de Stéphane Bern pour si peu.
Si vous voulez me tuer, faites le sale boulot vous-même.
Quoique, en fouillant un peu, je me suis aperçu que 5 jours après la diffusion de votre autre téléfilm, c'est Mikhail Gorbatchev qui nous a quittés. Je dis pas ça pour vous accabler, Stéphane, au contraire. Mais dans le doute, j'ai quand même envoyé Vladimir Poutine la scène où vous tuez quelqu'un avec un drone. On ne sait jamais.
Merci Jean-Luc, si au moins j'étais responsable de ça, je l'avoue, les Ukrainiens m'en seraient reconnaissants.
Je le pense.
Merci beaucoup. Mais c'est fou. Mais qui a fait le lien entre toutes ces célébrités et les buts de... Ça commence comme une blague.
Ça commence comme une blague et puis après, il y a toujours des internautes qui font des rapports parce que, comme je disais Virginie, avant la prise d'antenne, si vous regardez, il y a toujours une célébrité quelque part dans le monde qui meurt.
Oui,
donc il suffit de faire comme ça un petit rapport entre, en plus, quelqu'un qui ne marque pas beaucoup de buts.
Oui, voilà. Ça vaut, je vous dis. Ben merci beaucoup Jean-Luc.
Europe 1, historiquement vôtre.
Il est l'heure de dire au revoir à nos personnages
maudits
pour retrouver deux chroniqueurs
maudits
pour qui tout va pour le mieux. David Cassel-Lopez, vous nous racontez les origines d'Adidas.
Exactement.
Mais avant ça, comme chaque jour, mes aïeux qu'à l'époque, aujourd'hui on parle société avec vous, Virginie Giraud, notre historienne des mœurs. Ça s'est passé dans le passé, on remonte au 13 mars 1905, lorsque Mata Hari va révolutionner la danse exotique.
Libérer les femmes, ça passe aussi par la libération de leur corps. Et au début du XXe siècle, le striptease, aussi étonnant que cela puisse paraître, c'est un acte d'émancipation. Quand Mata Hari arrive à Paris après son retour de Java où elle vivait avec son ex-mari officier de marine, elle n'est rien ni personne. Pour survivre, elle cherche de riches amants et infiltre la bonne société pour se faire des relations.
J'imagine qu'elle ne va pas se présenter comme une petite Hollandaise fraîchement divorcée.
Et non, ça fait mauvais genre. Elle se lie d'amitié avec une baronne et pour piquer sa curiosité, elle lui raconte qu'elle s'appelle Mata Hari, l'œil du jour en javanais, qu'elle est la fille d'une princesse indonésienne et d'un prêtre bouddhiste. Pour la baronne, c'est une évidence. Mata Hari doit venir exécuter une danse sacrée chez elle, devant ses amis.
Oula, ça c'est difficile à tenir, à moins de prendre des coups à Kamel Wally. Mais comment elle va s'en tirer ?
Mata Hari, c'est une pro de l'arnaque. Elle prend date avec la baronne et elle se laisse quelques jours pour trouver un costume exotique et répéter une chorégraphie vaguement empruntée aux danseuses qu'elle a vues à Java. Le soir fatidique arrive et Mata Hari fait un tabac. Et là, dans le public, Il y a un homme qui est particulièrement touché par sa prestation. C'est Émile Guimet, le fondateur du musée d'art oriental qui porte aujourd'hui son nom.
Ah bon, qu'est-ce qu'il va lui proposer ? C'est pas lui qui va lui donner l'idée du striptease quand même.
Matahari va faire un spectacle exceptionnel qui lancera sa carrière de danseuse exotique. Elle prépare soigneusement son coup. Et enfin, le 13 mars 1905, c'est son grand soir. Il faut imaginer la bibliothèque ronde tout en bois du musée Guimet, la lumière, des petites lampes qui éclairent la scène, quelques musiciens, et Matahari qui fait son entrée enveloppée dans de grands voiles. Dans le public, il y a des hommes habillés en costumes sombres et des femmes en robes de soirée colorées. Tout le monde regarde Matahari qui interprète une danse où elle offre tous ses voiles, un par un, à la statue du dieu dans l'espoir de retrouver son amour perdu. Et tout le monde la regarde se déshabiller. Il faut se dire que personne n'a vu ça dans un musée à l'époque. C'est incroyable, normalement il n'y a qu'au bordel qu'on voit des femmes se déshabiller.
Mais vous voulez dire qu'elle a fini entièrement nue comme ça au milieu d'un musée ?
Ne perdons pas de vue une chose importante, Matahari est une arnaqueuse. Dans la pénombre, elle a l'air presque nue. En réalité, elle ne montre pas sa poitrine, elle garde toujours un soutien-gorge en métal. Et à ceux qui osent demander pourquoi elle ne l'enlève jamais, elle répond qu'un ancien amant jaloux lui a arraché un téton. La vérité, c'est qu'elle complexe sur sa poitrine depuis qu'un peintre pour lequel elle avait posé lui a dit qu'elle avait de trop petits seins.
Ah bah bravo, c'est pas très body positif tout ça.
Et pour le bas, qu'est-ce qu'elle a enlevé ou comment ça s'est...
Pour le bas, elle a l'air nue, elle a l'air seulement. Elle porte en réalité une sorte de col en chair qui ne montre rien du tout.
En bref, chez Matahari, tout est de l'esbrouf.
Exactement. Mais ça marche, parce que personne n'avait osé le faire avant elle. Et après son succès chez Émile Guimet, elle enchaîne les engagements et ses feuilles dans les soirées privées de la bourgeoisie parisienne et sur les grandes scènes, comme l'Olympia. Elle se fait payer jusqu'à 1000 francs or par représentation. Évidemment, le succès de Matahari va vite inspirer d'autres artistes et il y en a une qui ose vraiment tout montrer sur scène. Vous avez une idée de qui il s'agit ?
Lynn Renaud.
Oui, mais un peu plus tard.
Joséphine Baquet.
Et non, il s'agit de Colette, la fameuse auteure des Claudines. À partir de 1906, elle enchaîne les scandales sur scène en jouant des pantomimes très osées. Dans une pièce, elle interprète un faune habillé d'une courte peau de bête sans rien en dessous. Et au premier rang, hein, on confirme qu'on voit tout. Et dans la chair, elle porte une incroyable robe fendue sur le côté jusqu'à la taille et l'un de ses seins est totalement dénudé. La différence fondamentale entre Matahari et Colette, c'est que Matahari a besoin de gagner de l'argent rapidement. Colette, elle, a des revenus grâce à ses livres, mais elle veut vivre l'expérience de la scène et mettre en valeur son corps dénudé. C'est un acte subversif, émancipateur et érotique.
Bravo, mes aïeux, quelle époque. Merci Virginie. À cause de vos histoires, je vois bien que Jean-Luc et David sont tout émoustillés maintenant. Qu'est-ce que je vais faire?
On est fragiles, vous savez.
Il y a une suite en podcast à ce joli teasing?
Eh oui, il va falloir écouter la suite maintenant, les garçons. Et comme le public, vous pourrez la retrouver sur votre plateforme d'écoute préférée avec le podcast Au cœur de l'histoire où je vous raconte l'histoire de Colette. Et je vous promets qu'on va passer un bon moment.
Et Colette, eh ben, nous en parlerons aussi ici même vendredi, notamment de sa relation avec sa mère à l'occasion du 150e anniversaire de sa naissance.
Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern.
Les origines.
Pour conclure cette émission, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoine et Virginie Giraud, et surtout avec vous maintenant, David Castello-Lopez.
Oui, vous connaissez mon goût pour l'Allemagne, et en particulier pour les périodes troubles de son histoire. Et je suis donc particulièrement content aujourd'hui de vous raconter l'histoire d'Adidas, dans laquelle il sera question à la fois de l'Allemagne et de ses périodes troubles. Vous prenez le TGV à la gare de Lyon et vous roulez d'abord jusqu'à la gare centrale de Francfort-sur-le-Main, Frankfurt Hauptbahnhof, puis vous changez de train et vous vous arrêtez en gare de Nuremberg. Là, vous louez
ça,
une voiture.
Moi, j'aurais pris la gare de l'Est pour aller en Allemagne.
Vous avez peut-être raison, c'est peut-être la gare de l'Est et pas la gare de Lyon.
Ouais. Il vaut mieux arrêter cette chronique tout de suite. Cette imprécision est intolérable.
En tout cas, le but, c'est d'aller d'abord à Frankfurt Hauptbahnhof, ouais, puis de changer de train et vous arrêtez en gare de Nuremberg. Là, vous louez une voiture, vous prenez l'autoroute A73 en direction du nord-ouest, vous roulez une demi-heure et vous arrivez dans une petite ville charmante, bien préservée, avec un donjon et des maisons à colombages qui s'appellent
Herzogenaurach.
Oh, ça fait rêver.
C'est dans cette petite ville de Herzogenaurach que se trouvent les sièges sociaux de deux des plus grandes entreprises de basket au monde, d'une part Puma et d'autre part Adidas. Mais alors, est-ce un hasard si ces deux multinationales ont leurs sièges sociaux dans la même petite ville à 25 km en voiture de cette ville, l'autre ville célèbre pour son congrès nazi qu'est Nuremberg? Eh bien non. Et pour comprendre pourquoi, il faut remonter 100 ans en arrière. Herzogenaurach, c'est une ville connue depuis très longtemps pour son industrie de la chaussure. Et un petit peu après la Première Guerre mondiale, il y a deux frères qui s'appelaient Adolf et Rudolf Dassler, qui se sont associés pour créer la Gebrüder Dassler Schuhfabrik, la fabrique de chaussures des frères Dassler. Et ils ont eu très vite du succès, en particulier parce qu'ils ont développé une chaussure à pointe hyper performante pour la course à pied, qui a séduit notamment Jesse Owens aux Jeux Olympiques de 1936, qui a gagné sa célèbre finale du 100 mètres avec des chaussures des frères Dassler. Bon, tout allait bien, mais là, les deux frères se sont brouillés à mort. Et aujourd'hui encore, on ne sait pas exactement pourquoi ils se sont brouillés à mort, même s'il y a des hypothèses. Rudolf, par exemple, il aimait vraiment beaucoup le nazisme. Adolf, peut-être un petit peu moins. Ça a pu jouer. Ils ont aussi vécu sous le même toit avec leurs femmes respectives. Ça peut donner lieu à des querelles de zoom-zoomerie qui peuvent dégénérer. Rudolf était aussi convaincu que son frère l'avait dénoncé comme gros nazi aux Américains à la sortie de la guerre, ce qui avait fait qu'il avait été interné dans un camp. Ça n'a pas été prouvé, mais ça a peut-être joué dans cette brouille aussi. Toujours est-il que le résultat de cette brouille mortelle, c'est que Adolf, il s'est barré pour monter sa propre entreprise de chaussures. Le diminutif d'Adolf, vous le savez peut-être, c'est Adi. Et son nom de famille, c'était Dassler. Et son entreprise, il a donc appelé de son nom Adi Das. Et Rudolf, de son côté, il a créé la sienne, qu'il a d'abord appelée Ruda, pour Rudolf Dassler, avant de la rebaptiser Puma. La rivalité des deux frères, elle s'est donc incarnée dans une rivalité économique et elle s'est transmise aussi à tous les employés de leur usine respective. La ville de Herzogenaurach, elle a été partagée entre les Pumeraner, les employés de Puma, et leurs rivaux, les Adidasler, les employés de Adidas. Ils refusaient de s'asseoir aux mêmes tables dans les bars. Les deux groupes, ils avaient chacun leurs écoles, chacun leur commerce respectif. Alors, les frères Dassler, ils sont morts dans les années 70 sans jamais s'être réconciliés. Mais leur rivalité leur a survécu pendant encore 40 ans, jusqu'en 2009. Cette année-là, les deux marques ont organisé un match de foot de la réconciliation entre leurs employés. Match qui a eu lieu lors de la Journée internationale de la paix des Nations Unies. Bon, ça c'était symbolique, mais plus généralement, on ne peut pas dire qu'il y ait vraiment beaucoup de problèmes depuis un bon bout de temps entre les deux entreprises. Le nouveau patron d'Adidas qui vient de prendre ses fonctions il y a quelques jours, qui s'appelle Björn Gulden, avant c'était le patron de Puma, voyez. Et avant ça encore, il avait déjà travaillé chez Adidas, donc ça montre bien qu'il n'y a plus grand-chose. Alors il y a 7-8 ans, il y a eu une petite querelle où les deux marques se sont accusées mutuellement de plagiat, mais dans l'ensemble, tout va bien maintenant à Herzogenaurach. J'ai complètement foiré ma dernière prononciation de cette ville, mais
Personne ne peut vérifier de toute façon.
Exactement.
Personne.
Herzogenaurach.
Merci beaucoup David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et sur le site europe1.fr où vous pouvez également écouter et retrouver toutes nos émissions. Historiquement vôtre, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais on revient demain dès 16h avec toute l'équipe et surtout avec trois nouveaux personnages qui ont volé le trésor. Andrew Mellon, richissime banquier et ministre des Finances américain, accusé par l'administration du président Roosevelt d'avoir fraudé le trésor, le fisc américain, puis le pirate Henry Morgan. Et vous, Jean-Luc, vous nous raconterez des gangsters à l'origine du casse le plus spectaculaire du siècle en Allemagne, au palais des princes de Saxe à Dresde, c'est ça?
Le clan Remo qui a dérobé le trésor de Dresde pour un butin de plus de 100 millions d'euros. On vient de retrouver, 3 ans après les faits, une partie du butin. Je vous raconterai tout ça.
Ramenez-nous quelques pierreries quand même.
Vous en avez déjà.
Non, pas assez. À demain les amis.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.